Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Mal vous fasse. Pour le psychiatre Daniel Zaguri, le fait divers, c'est la tragédie grecque entre la poire et le fromage. Pourquoi les faits divers exercent-ils une telle fascination? Récemment, les affaires Dupont de Ligonnès et Jonathan Daval ont connu une couverture médiatique et un intérêt public exceptionnel. Comment expliquer que ces affaires captent avec autant de force notre attention? Peut-être parce qu'ils sont des récits de la condition humaine autour de la vie, de la mort, de l'envie, de la jalousie, de l'amour, de la sexualité et de la frustration. Bref, des récits qui mettent en lumière des pulsions archaïques. Que racontent les faits divers de notre psyché? Racontent-ils vraiment un état de la société à un instant T? Les faits divers nous captivent peut-être car nous pressentons cette vérité de la philosophe Simone Veil. Tous les monstres sont en nous. Nous essaierons de comprendre les ressorts de ces faits divers qui nous ensorcellent et comment les techniques de narration fictionnelle peuvent sublimer certains d'entre eux, comme dans le fameux « 200 froids » de Truman Capote. Mes complices cet après-midi, Marie-Laure Sunshine et le psychiatre Christophe André. Bienvenue dans Grand Mère vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Eh bien, un fait divers m'intéresse parce que, précisément, il n'est pas, si vous voulez, à mes yeux, la simple relation d'un fait réel qui a existé, une sorte de relation neutre et objective, mais il est un véritable récit, comme on peut en trouver dans des contes populaires autrefois, c'est-à-dire une certaine façon que le journaliste a, et derrière le journaliste d'ailleurs, très vraisemblablement tout son public, de déformer en quelque sorte le fait, de le décomposer en ses thèmes, en ses constantes, pour reconstituer un objet nouveau et nouvellement agencé qui est le récit.
Mais c'est un conte qui est arrivé, c'est une fable qui est arrivée malgré tout.
Oui, mais je pense que ce qui est arrivé disparaît presque, dirais-je paradoxalement, sous la façon en quelque sorte nouvelle et générale dont on le raconte.
Oui. Roland Barthes en 1964 avec le journaliste Pierre Dumayet. Bonjour Fabrice Drouel.
Bonjour Ali.
Vous êtes journaliste, producteur de l'émission Affaires Sensibles du lundi au vendredi à 15h. Énorme succès de la station. Vous êtes surnommé The Voice dans certains couloirs de la maison de la radio. Vous publiez chez Hors Collection Affaires Sensibles, 25 histoires qui ont marqué ces 50 dernières années. C'est une coédition France Inter. Il n'y a pas que des faits divers dans ce beau livre.
Oh non, il n'y a que d'ailleurs 4 faits divers sur 25. Ça correspond à peu près à la proportion des faits divers abordés dans l'émission. Ce n'est pas une émission de faits divers. Le fait divers y a sa place. C'est autre chose.
Mais ça vous intéresse.
Mais bien sûr.
Bonjour Patrick Avran.
Bonjour.
Vous êtes psychanalyste, écrivain et vous avez publié au PUF Les faits divers, une psychanalyse. Bonjour Patricia Touranchot.
Bonjour.
Grand reporter, ancienne journaliste à Libération, vous collaborez au site d'Information Les Jours, qui coédite avec Le Seuil, Grégory, la machination familiale. Vous avez co-réalisé l'excellente série documentaire Grégory sur Netflix. Bonjour Didier Decoin, bienvenue.
Bonjour Ali.
Vous êtes écrivain, scénariste, président de l'Académie Goncourt et vous avez publié il y a quelques années un beau dictionnaire amoureux des faits divers. Alors qu'est-ce qu'un fait divers d'un point de vue journalistique, Patricia Touranchot? Pierre Larousse citait comme faits divers les petits scandales, les accidents de voiture, les crimes épouvantables, les suicides d'amour, les vols à main armée, les jumeaux soudés par la peau du ventre ou encore les pluies de sauterelles ou de crapauds.
Exactement. Les faits divers, ce sont des tas de petites histoires et de grandes histoires. Ça va de la catastrophe naturelle, effectivement, aux animaux à deux têtes, aux rumeurs. Ça englobe tout un tas d'histoires et puis tous les crimes, tous les délits, toutes les histoires de banditisme. Enfin, c'est très vaste. Et c'est pour ça qu'on les réunit, en fait, toutes ces histoires sous une rubrique dans les journaux qui s'appelle les faits divers et qui n'appartiennent en fait à aucun autre genre. C'est pas vraiment de la politique, c'est pas de l'économie, c'est pas de la culture, c'est pas du sport. En même temps, ces affaires, ces histoires, elles traversent toutes les couches sociales. Elles traversent tout. C'est pour ça, je crois d'ailleurs, que les faits divers fascinent les gens, parce que ça peut arriver à tout le monde. Voilà. Oui. Ça peut arriver à tout le monde, ça s'est passé à côté de chez nous, ça s'est passé un peu plus loin, et ce sont souvent des gens comme nous à qui arrivent des histoires extraordinaires.
Alors la professeure de littérature comparée, Frédéric Toudoir sur la pierre, nous dit que le fait divers n'existe que par les médias. Si un crime a lieu et qu'il n'est pas signalé dans le journal, ce n'est pas un fait divers. Vous êtes d'accord avec ça, Fabrice Drouel ?
Oui, parce qu'on n'a pas tellement le choix d'être d'accord ou pas d'accord. Finalement, si on n'en parle pas, il n'a pas fait divers, effectivement, parce qu'on n'en parle pas, mais le fait existe.
Didier Decoin, il n'y a pas de fait divers sans étonnement, écrivait Roland Barthes. C'est en exergue de votre dictionnaire, amoureux des faits divers.
Comme il avait raison. C'est la première caractéristique du fait divers. On se dit, non, mais c'est pas possible. Ils ont fait ça, voilà. Et c'est ça qui rend la chose tout à fait, on s'accroche au fait divers parce qu'il nous stupéfie.
Et Patrick Avran, dans le fait divers, il y a le surgissement de l'extraordinaire dans la vie ordinaire. C'est ça qui nous fascine, au fond.
Ça nous fascine comme les rêves et les fantasmes. C'est-à-dire que le fait divers, c'est ce que l'on n'imagine pas qu'il puisse se passer, qui arrive. Et qui arrive en même temps à côté de chez nous. C'est notre proche, ça pourrait être notre voisin. Regardez la maison de Dupont d'Ligonnès. Elle est comme toutes les autres. Hein. On pourrait y habiter. Et ça, c'est extraordinaire parce que c'est justement ce qui nous permet de partager cet étonnement avec tout le monde. C'est effectivement pas du tout une affaire historique politique. C'est une affaire qui est à la fois, tout le monde peut s'étonner de la même chose.
Fabrice Drouel, lorsque vous étiez adolescent, l'affaire Christian Ranucci, inculpé de l'assassinat de la petite Marie Dolores, ce fait divers vous a marqué dans les années 70. Vous lisez le récit de cette affaire, le pullover rouge de Gilles Perrault, sans pouvoir vous arrêter.
Et oui, pendant 7 heures de suite, ce qui n'est pas habituel quand on a 16 ans, et que les livres qu'on nous fait lire à l'école nous tombent des mains. Ouais. Et là, je me suis aperçu que le réel avait parfois, et même souvent, plus de talent que la fiction. Et je me suis dit, quel est le métier qui traite le réel? C'est journaliste. La vocation de journaliste est venue d'un fait divers, voyez-vous. Et c'est étrange parce que je ne suis pas un spécialiste du fait divers. Et à ce propos, je trouve qu'il est difficile à manier dans le news, en tout cas sur les médias audiovisuels qui manquent parfois d'espace. Et quand on parle d'un fait divers, il se produit, on en parle beaucoup, puis il y a une longue fenêtre de silence, il y a ce qu'on appelle un rebondissement, et de fil en aiguille, au fil des mois, des semaines et des années, on ne cesse de rebondir. C'est un peu la faux trampoline, le fait divers. Donc c'est difficile à manier, et c'est notre chance dans Affaires Sensibles, justement, c'est de pouvoir traiter un fait divers en racontant une histoire avec un début, un milieu et une fin. Et on la comprend mieux, évidemment, mais c'est le confort du cold case aussi. D'ailleurs, je signale qu'il n'y a pas que des cold cases dans l'affaire sensible, mais c'est un certain confort. En tout cas, je pense que ça donne plus de sens.
Fabrice Drouel parle de récits. Pourquoi les écrivains sont-ils fascinés par les faits divers au point de produire des œuvres magistrales comme De sang froid de Truman Capote ou bien La Serpe de Philippe Génada, Didier Decoin?
Alors, puis on peut citer Hugo aussi, Le dernier jour d'un condamné à mort, on peut citer Camus, on peut citer Duras, on peut citer... Bon, ils sont passionnés par ça, j'allais dire, c'est une première réaction, c'est une réaction de paresse. Le scénario est déjà écrit, ils n'ont plus qu'à mettre des mots pour rendre la chose plus agréable à lire. Non, en fait, c'est parce que ils trouvent confirmation de ce qu'ils cherchent. À partir du moment où on commence à écrire, on est en quête d'essayer de comprendre qu'est-ce que l'homme a dans sa tête, dans son cœur, pourquoi est-ce qu'il devient à certains moments monstrueux, pourquoi est-ce qu'à un certain moment il devient un ange. Et le fait divers permet d'approcher une vague, pas une explication, mais une constatation de ce fait-là. Et c'est donc fascinant. Et puis, il a théoriquement, sauf dans l'affaire, par exemple, l'affaire Dupont de Ligonnès, il n'y a pas de chute, il n'y a pas de fin. C'est frustrant au possible. Mais la plupart des faits divers, ils ont un commencement, ça monte en puissance, on se demande ce qui va arriver, et puis on a la réponse. Et alors ça, c'est extrêmement satisfaisant pour l'auteur qui, tous les matins, se met à sa table de travail et se dit « Bon sang, comment est-ce que j'ai bien écrit sur la prochaine page blanche qui va se présenter à moi ?»
Patrick Avran, sur ce goût des écrivains pour le fait divers.
Ah, le goût des écrivains, c'est que c'est un récit, le fait divers. Mais les grands classiques sont des faits divers. Madame Bovary, c'est un fait divers. Et c'est un fait divers réel qui a été romancé merveilleusement. La bête humaine de Zola, ça part aussi. Il y a un certain nombre de faits divers. Il a collectionné les faits divers d'accidents de chemin de fer pour écrire son livre. Le fait divers, c'est ça rassemble. C'est quelque chose qu'on peut lire comme un roman. C'est un récit, ça a effectivement un début et une fin. Et quand il n'y a pas de fin, on l'attend. C'est-à-dire que le fait divers, ça peut devenir un roman feuilleton. On est en l'attente d'un certain nombre de fins de faits divers. L'affaire du pont de Ligonnès, l'affaire du petit Grégory, ce sont des faits divers feuilletons. Et là, on est plutôt dans du Alexandre Dumas.
Fabrice Roual.
Je trouve que le fait divers a aussi une utilité sociale, c'est expiatoire. C'est-à-dire quand on voit le malheur des gens, on se dit, bah tiens, on est heureux, nous. Parce que c'est le malheur des gens comme nous, qui, ça pourrait nous arriver. Je rebondis sur ce que disait Patricia Touranchot, le fait divers est puissant parce qu'il concerne monsieur et madame tout le monde, vous, moi, les lambda. Alors que la formation autour de la diplomatie, de la politique, c'est pas nous. Mais le fait divers, c'est nous, potentiellement, c'est nous. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment puissant.
Patricia Touranchot, vous définissez sans aucun problème comme fait diversière. Et pour vous, les faits diversiers sont les meilleurs connaisseurs du genre humain. Enfin, c'est plutôt Dix de Coin qui le dit dans son dictionnaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, que les faits diversiers sont les meilleurs connaisseurs du genre humain?
Moi, je pense que c'est la matière la plus noble qui soit, parce que c'est une matière humaine. On est obligé d'avoir de l'empathie pour les gens. Quand on est fait diversier, et effectivement, je le revendique, on approche des gens de toutes sortes, des témoins, des victimes, des criminels, des bandits, des policiers, des magistrats, des gendarmes, etc. Et c'est pas facile. Il faut savoir bien se comporter. La réalité, elle dépasse vraiment la fiction. Mmh. C'est pour ça qu'il passionne les romanciers, les scénaristes, dans un fait divers, on a tous les ingrédients d'une bonne narration. On a la dramaturgie naturelle dans un fait divers. Mmh. Hein, y a pas forcément une fin, mais en tout cas, on a des protagonistes, on a un décor, on a une enquête, hein, une histoire qui avance. Parfois qui n'aboutit pas et qui fascine encore plus les gens quand elle est non élucidée. L'affaire Grégory, c'est aussi parce que on ne connaît pas la fin que les gens continuent à se passionner pour l'histoire de ce petit garçon jeté dans la Vologne en 84, alors sur fond de haine familiale recuite, d'histoire de corbeaux harceleurs dans un petit village des Vosges. Cette histoire, elle continue et elle continuera à fasciner les gens parce qu'il y a tout le temps des rebondissements depuis maintenant 36 ans. Les mobiles, ce sont toujours les mêmes. Ce sont des histoires de vengeance, de jalousie, de haine, de colère, d'argent, de règlement de compte. Vous voyez, c'est une matière facile, en fait, pour un scénariste ou pour un romancier de puiser dans ces histoires.
Fabrice Drouel.
Je crois qu'il est éducatif aussi, le fait divers, parce qu'il nous pousse à ne pas nous retrancher dans nos certitudes. On veut toujours savoir la vérité. On veut tout savoir. Ben c'est bien, le fait divers nous dit, ben non, parfois, on peut pas tout savoir. On n'a pas forcément des réponses et arrêtez de provoquer des réponses. Et c'est bien.
Question de Marie-Laure Sunshine, de Femme Actuelle. Bonjour Marie-Laure.
Oui, bonjour Ali, bonjour à vos invités. Fabrice Drouel évoquait il y a quelques instants son utilité sociale. Alors est-ce qu'on peut dire effectivement que le fait divers renforce le lien social, c'est-à-dire le fait qu'il nourrisse les discussions de comptoir, les repas de famille? C'est finalement un sujet qui permet de partager des valeurs communes, de trouver un consensus sans besoin d'une expertise particulière comme la politique ou l'économie.
Patrick Avran, psychanalyste.
Absolument. Le fait divers est ce qui rassemble. Et d'ailleurs, si vous regardez les journaux régionaux, ils parlent de faits divers qui se sont passés dans la région. Un fait divers, ça peut rassembler un canton, un département. Les journaux nationaux rassemblent tout un pays. C'est ce que l'on pourra échanger quand ce sera à nouveau ouvert au comptoir du bistrot, sans que cela amène à des discussions entre « je suis pas d'accord avec toi », sur des questions politiques. On ne peut pas vraiment se fâcher autour d'un fait divers. On est ensemble confrontés au plus extraordinaire qui puisse nous arriver, c'est-à-dire quelque chose qu'on n'attend pas, qui est l'imaginaire est dépassé par la réalité. C'est pour ça aussi que ça renvoie au rêve. Le fait divers, d'une certaine façon, c'est le rêve que l'on voit se produire tous les jours, dans la rue.
Patricia Touranchot, j'aimerais savoir comment vous êtes devenue fait diversière. Quel est le moment dans votre vie qui vous a donné envie de vous plonger dans cette matière passionnante?
Avant de faire l'école de journalisme à Bordeaux, la même que Fabrice Drouel, j'avais déjà dans l'idée, les faits divers me passionnaient, je lisais Libération, je lisais le Journal du Dimanche, je lisais France Soir, les faits divers me passionnaient. Et à partir du moment où je suis devenue journaliste, j'ai fait un premier stage à Libé et par hasard, en fait, on m'a envoyé sur un premier fait divers et puis un deuxième. Et je me suis aperçue que certains de mes collègues de Libé, ça les rebutait un peu. Et moi, tout de suite, ça m'a passionnée. Parce que j'allais voir des gens à qui il arrivait des histoires incroyables. Enfin, un de mes premiers faits divers, c'est un retraité d'une banque qui avait vrillé après la mort de sa mère et qui avait entassé des journaux. 8 tonnes de journaux, dont des journaux de collection qui parlaient de faits divers chez lui. Et son appartement a été évacué dans son dos, en fait. Et il a perdu tous ses journaux. Et j'ai rencontré ce monsieur. Je suis allée dans l'appartement vide. Enfin, voilà. Ce sont des histoires qui hyper poignantes. Et après, ce qui m'a toujours intéressée, alors que ce soit sur des bandits ou sur des criminels, c'est d'arriver à essayer de comprendre un tout petit peu pourquoi, enfin le point de bascule de ces gens. Sur l'affaire sur Guy Georges, pourquoi ce Guy Georges bascule à ce moment-là? Pourquoi Fourniret bascule à ce moment-là? Et ça, c'est un truc passionnant. Moi, je me jette sur les expertises psy des criminels quand j'ai accès à un dossier parce que la clé, elle est là aussi et que ça renvoie à la part sombre de chacun d'entre nous. Pourquoi un type normal, a priori, tout à coup va basculer et après on découvre, c'est un abîme, hein, Fourniret, quand on découvre qu'est-ce qui a pu se passer avant pour qu'il en arrive là.
Et vous, Didier Decoing, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce dictionnaire amoureux des faits divers? Vous avez d'ailleurs écrit un livre tiré d'un célèbre fait divers, l'affaire Kitty Genovese, hein, c'était dans Est-ce ainsi que les femmes meurent? Qu'est-ce qui vous fascine dans les faits divers, Didier Decoing?
Mais moi, j'ai vécu dans un monde de faits divers parce que mon père était cinéaste.
Henri Decoing.
Et vous savez, voilà. Et vous savez que les cinéastes, ils vont très souvent chercher leur inspiration, leur scénario, dans les faits divers. Alors, il y avait d'abord le fait que tous les soirs, papa épluchait France Soir pour chercher des anecdotes qui auraient pu donner naissance à des films et qu'il avait à portée de ma main une bibliothèque qui courait tout le long de l'appartement et qui était remplie de livres de faits divers, et j'avais le droit d'ouvrir ces livres, peu importe la violence de ce qui était raconté dedans. Et donc j'ai vraiment été baigné là-dedans, ça a fait partie de mon... Et puis, papa a fait un jour un film qui s'appelait Razzia sur la Schnouf, sur le trafic de drogue, et il a eu besoin d'un conseiller technique, et il a pris comme conseiller technique l'ennemi public numéro 1, qui est venu un soir à la maison travailler, et je me reverrai toujours, je devais avoir 8 ans ou 10 ans, j'étais en pyjama, j'allais me coucher, la porte s'ouvre et apparaît sur le seuil un type, la caricature du gangster, le chapeau mou, la cigarette de travers, la gabardine beige, ça, et papa dit bonjour au monsieur, alors je dis bonjour monsieur, et le monsieur dit bonjour mon petit. Et je lui dis, vous êtes qui? Il me dit, je m'appelle Joe Attia. Ah, je dis, ah bon? Et vous faites quoi? Je suis gangster. Alors, je dis, même pas vrai. Un petit off, hein, même pas vrai. Et il me sort, à ce moment-là, son flingue, son pistolet, son revolver, je sais plus ce que c'était. Il a mis une grande arrêt, bien sûr. Il me dit, et ça, c'est quoi? C'est de la mie de pain? Ah, ça, j'étais fasciné.
Ça marque un homme.
C'est un vrai. Ah ben ça marque un homme quand vous avez 10 ans. Et vous imaginez le lendemain le succès que j'ai eu en cours de récréation,
ah ben oui,
en racontant ça à mes petits copains. J'ai passé la nuit qu'un vrai gangster.
Fabrice Drouel.
Moi, j'ai pas cette chance-là, mais Patrick Avran dit dans son livre que c'est objet culturel, le fait divers. Je rappelle qu'au théâtre aussi, c'est objet culturel. La pièce Affaire sensible en ce moment commence par un fait divers. Hein, Pauline Dubuisson,
ah oui,
un fait divers qui dit beaucoup de choses de la France de ces années-là, puisqu'elle est jugée pour un crime passionnel. Elle est condamnée à perpétuité. perpétuité, pas pour son crime passionnel, parce qu'elle a couché avec des Allemands, notamment un Allemand, colonel de la Wehrmacht pendant l'occupation. Donc le fait divers, il est objet culturel, au théâtre, au cinéma, partout.
Et il faut lire le fait divers que vous citez, de Pauline Dubuisson, écrit par Philippe Génada, La Petite Femelle, qui est absolument formidable. Oui. Alexia Rivière et Claire Destacan m'ont aidé à préparer cette émission, avec la collaboration de Manon Cancé, à la technique, le duo de choc, Pauline Laverdure et Kevin Pelot, à la réalisation Stéphanie Texier. On écoute Ohio, Isabelle Adjani, souvenir de Fabrice Drouel au Palace dans les années 80.
Bien sûr.
C'est bon, Ohio par Isabelle Adjani, une chanson signée Gainsbourg.
Grand bien vous fasse.
Enfin, c'est comme ça, on n'y peut rien changer.
Ali Rebéi.
C'est comme ça et pas autrement.
Sur France Inter.
Pourquoi les faits divers nous fascinent-ils? C'est notre question cet après-midi, en compagnie de Patricia Touranchot, Patrick Avran, Didier Decoing et Fabrice Drouel. Alors à propos du fait divers, le philosophe Merleau-Ponty écrivait « Le goût du fait divers, c'est le désir de voir, et voir, c'est deviner dans un pli de visage tout un monde semblable au nôtre ». Patrick Avran, je rappelle que vous êtes psychanalyste, il y a une pulsion scopique, une pulsion de voyeuriste chez l'amateur de faits divers.
Je ne sais pas s'il y a une pulsion scopique, une pulsion voyeuriste, il y a un désir de savoir, et un désir de savoir qui nous est adressé à nous-mêmes. Nous essayons de comprendre ce qui se passe en nous. Il ne faut pas oublier que le fait divers est apparu à un moment très précis, il est apparu à la fin du XIXe siècle, Le fait divers, il est laïque. C'est-à-dire que le fait divers est apparu à partir du moment où on n'a pas pensé que les veaux à deux têtes, ils naissaient parce qu'il y avait une sorcière qui avait jeté un sort, ou bien que tel criminel était porteur était envoûté par Satan, hein. Et donc, le fait divers est apparu à partir du moment où nous nous sommes posé la question de qu'est-ce que c'est que la réalité? Et la réalité, elle nous concerne. C'est plus une volonté de savoir qu'une volonté de voir ou de deviner.
Didier Decoin, êtes-vous d'accord avec l'idée que les grands faits divers sont la version adulte des contes de Grimm ?
Oui. Mais, d'une certaine façon, oui, mais je pense que ça va beaucoup plus loin que les contes. Les contes, oui, ils reposent sur des mythes et ils sont créateurs de mythes. Le fait divers, lui, c'est plutôt quelque chose qui... Comment vous dire ? Le premier de tous les faits divers, ça a quand même été Caïn tuant Abel. C'est quelque chose... Alors, on est au-delà du mythe, là. On est sur la fondation même des choses. Vous savez, il y a cette phrase qui était extraordinaire du fondateur du Parisien Libéré, il s'appelait Émilien Amaury, et qui disait à ses journalistes, je vous demande pas de me rapporter des informations exactes, je vous demande de me rapporter des informations énormes. C'est-à-dire qu'il leur donnait presque l'ordre de tricher avec la vérité. Alors, ça va au-delà du conte de fées, ça n'a rien de féerique, le fait divers, c'est diabolique, c'est sorcier, c'est théoriquement c'est méchant, même si certains faits divers sont désopilants, il y en a de très drôles, il y en a de très très drôles.
Et puis il y a des contes de Grimm qui sont assez effrayants tout de même, mon cher Didier Decoin. Alors j'aimerais citer le psychologue expert auprès des tribunaux, Jean-Luc Ployer, qui nous dit la chose suivante. Si les faits divers nous intriguent, c'est parce que, comme les enfants, nous avons besoin d'exorciser les choses, de nous faire peur avec ces histoires ahurissantes, pour pouvoir nous rassurer ensuite, en nous disant que rien de tout ça ne nous est arrivé, et surtout, que ça ne nous arrivera pas. Je m'adresse au psychiatre Christophe André.
Ah ben, on est au cœur effectivement de ce qui fait le fait divers. Mais vous savez, on en a parlé. Mais ce qui me fascine, moi, c'est les non-faits divers. C'est-à-dire, parfois, je regarde mon épouse, mon neveu, je regarde Fabrice Drouel, je regarde Ali Rebeilly, et je me dis, mais si demain ces gens massacraient sauvagement leurs voisins, leurs conjoints,
merci beaucoup.
Je suis sûr qu'on trouverait des explications. Et c'est ce point de bascule dont parlait tout à l'heure, je crois, Patricia Touranchot, c'est-à-dire il peut exister un point de bascule chez chacun de nous et qui permettrait en tout cas de poser des hypothèses pour dire, ben voilà, c'est... Parce que, vous savez, c'est pas toujours des grands psychopathes ou des grands serial killers qui commettent des faits divers. Justement, le pur fait divers, c'est nous, c'est n'importe qui.
C'est souvent d'ailleurs dans les témoignages des voisins, ah mais il était sans histoire, puis un homme gentil. Vous avez remarqué, l'auteur, il est d'abord un homme gentil sans histoire, très souvent.
Patrick Avran.
Le fait divers, c'est effectivement souvent un crime, mais c'est pas uniquement un crime, c'est tout ce qui est extraordinaire. Un fait divers, c'est par exemple un enfant qui tombe du troisième étage et qui se fracture le bras. Hein. C'est quelque chose qui apparaît comme ça, quelqu'un qui dans une maison dont il vient d'hériter découvre 200 kilos d'or. C'est des faits divers qu'on peut lire ici ou là. Il y a cette dimension d'extraordinaire. C'est là où il y a le côté un peu conte de fées. On ne croit pas que ça arrive et ça arrive quand même. Alors effectivement, dans ce cas-là, il n'y a pas véritablement d'explication à chercher, sinon que ça nous met dans la possibilité qu'il peut nous arriver quelque chose et qu'au fond, ça nous prépare à ça. Dans cette mesure-là, au fond, ça nous protège de l'extraordinaire qui pourrait nous arriver.
Patricia Touranchot.
Ouais, moi, les contes de fées, les contes de Grimm, je suis plus ou moins d'accord parce que c'est quand même, il y a pas mal de faits divers qui sont des cauchemars. Ce sont de véritables cauchemars. Et dans les contes, on a tendance à voir le criminel comme un monstre. Or, les monstres n'existent pas. Ce qui existe, ce sont des actes monstrueux, vous comprenez ? Et justement, ce qui nous touche dans des faits divers, ce qui résonne en nous et qui nous met parfois mal, c'est que le type qui a commis ces crimes-là, Ben, c'est un mec comme nous, c'est un homme, c'est une femme, et c'est d'autant plus gênant. Donc, si vous voulez, sur les comptes, je suis assez réservée. En revanche, et aussi encore plus sur la phrase de Amaury, parce que moi, les faits divers, j'essaye d'avoir des faits, des détails extrêmement justes. Je veux une histoire, je veux que tous les éléments soient absolument justes, réels. Je ne triche pas. En revanche, dans le récit, dans la narration de cette histoire, effectivement, je vais utiliser des techniques de romancier, sans jamais tricher sur la couleur d'une voiture, sur le lieu d'un crime, etc.
Comme le fit Truman Capote dans De sang froid. Écoutons Jean-Marie Villemain, le 18 octobre 1984. C'est un extrait de votre documentaire Grégory, diffusé sur Netflix, Patricia Touranchou.
On en voulait à votre réussite ? Une réussite, il y en a beaucoup qui ont de la réussite comme ça. J'ai pas gagné au loto, hein. Seulement je travaille, ma femme aussi, c'est tout. Ce qu'on a, on travaille pour l'avoir. Il y en a beaucoup comme ça. Seulement il y en a qui sont feignants. Qui a envie des autres, ceux qui travaillent, c'est tout.
Jusqu'au point de s'en prendre à votre fils ?
Il y a des fous sur Terre.
Sincèrement, Jean-Marie Villemain, est-ce que vous pensez que le meurtrier, l'assassin de votre fils, vous le connaissez ?
Moi, je le connais. Je le connais, oui.
Alors l'affaire Grégory, c'est sans doute le fait divers français le plus retentissant depuis la Seconde Guerre mondiale. Patricia Touranchou, est-ce que vous avez compris pourquoi, 36 ans après les faits, pourquoi l'affaire Grégory fascine encore à ce point le public ?
Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, on a une histoire universelle dans l'affaire du petit Grégory. On a un enfant qui est tué, un petit garçon qui paye pour des haines d'adultes. Hein, le criminel se venge en réalité de la réussite sociale de Jean-Marie Villemain, le père du petit garçon, parce qu'il est devenu chef, contremaître dans la vallée de la Vologne, alors que tout le reste de sa famille et de ses amis, ils sont restés ouvriers dans les filatures. Cette haine se concrétise par un corbeau qui appelle, qui passe des centaines d'appels téléphoniques à la famille de Jean-Marie Villemain pendant un an et demi, et qui ensuite met à exécution sa vengeance. On a tout. Cette histoire, elle fascine aussi parce qu'elle n'est pas résolue, malheureusement, et parce que la justice a déraillé, les médias ont déraillé, et que aujourd'hui, bon, je sais pas si elle va être résolue ou pas, c'est mal barré. Moi, j'ai toutes les semaines, enfin même tous les deux jours, j'ai des appels de gens ou des messages de gens qui posent des questions, qui essayent de chercher. Il y a des groupes sur Facebook sur l'affaire Grégory. Ça suscite un attrait irrésistible et difficile à expliquer quand même.
Patrick Avran, l'un des ressorts les plus puissants, hein, on l'a dit, de l'affaire Grégory, c'est l'envie, hein, le sentiment envieux qui peut pousser au meurtre, à l'assassinat. L'envie, c'est une algue toxique, hein, qui empoisonne les relations sociales, amicales, amoureuses, familiales, et c'est bien souvent le ressort de faits divers sanglants, hein.
C'est bien souvent le ressort de faits divers sanglants, mais il y a aussi quelque chose de particulier dans l'affaire Grégory, c'est qu'il reprend tous les codes des faits divers, et les faits divers depuis toujours ont été les plus suivis, c'est là où il y a un meurtre d'enfant. Les meurtres d'enfants, c'est l'inacceptable pour l'être humain. C'est-à-dire, l'être humain est d'une certaine façon programmé pour que quand un petit vient au monde, il soit suffisamment entouré pour qu'il puisse grandir et qu'il devienne un grand enfant puis un adulte. Et quand il y a un meurtre d'enfant, nous sommes touchés au plus profond de notre humanité. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui est insupportable. Et depuis le début, depuis les premiers faits divers, on voit que ce sont toujours ceux-là qui sont les plus suivis parce que on attend la réponse. Trouver le meurtrier, d'une certaine façon, c'est notre devoir. C'est notre devoir parce que nous sommes à chaque fois pris par cela.
Fabrice Drouel.
Oui, on parle de transgression. L'infanticide, c'est la transgression ultime, c'est pour ça que ça nous frappe. Moi, le fait divers, pour moi, le plus retentissant, personnellement, qui me fascine, qui me questionne, qui me trouble, c'est Jean-Claude Roman. Cet homme qui, pendant 20 ans, a fait croire qu'il était médecin à l'OMS, il avait raté sa thèse, il s'en est pas remis, et il s'est enferré dans ce mensonge qui est devenu sa prison, et il a fini par tuer ses parents, sa femme et ses deux enfants. Et il a réussi à tenir le mensonge parce que dès lors qu'il a dit qu'il était médecin, le groupe social autour de lui s'est dit « bah oui, c'est un médecin, donc c'est quelqu'un de respectable » et on venait le consulter sur les dernières trouvailles médicales. Comment 20 ans de mensonges ont-ils pu vivre ainsi? Comment a-t-on pu arriver à un tel scénario, une telle abomination? Il est vraiment, vraiment très fascinant ce fait divers parce qu'il dit tellement de choses de l'humain et de la part d'un humain dans l'humain que vraiment il vaut le détour. Il m'a toujours fasciné. Toujours.
L'affaire Roman qui a également fasciné Emmanuel Carrère, oui, avec évidemment l'adversaire. Allez, il est temps de retrouver les choses vues de notre ami Christophe André.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute?
Christophe André.
Le fait divers, c'est l'irruption de la violence, de la mort, de l'injustice, du drame à côté de chez nous. Il n'y a pas, ou presque pas, de fait divers du bout du monde. Pour que le fait divers nous touche, il faut qu'il nous soit proche, qu'il concerne des voisins, des personnes à notre image ou des inconnus que l'on côtoie au quotidien. Il faut que l'on puisse se dire « ça aurait pu être nous ». Le fait divers nous inquiète car il bouscule notre aspiration au confort et à la sécurité, nos efforts pour nous mettre à l'abri de l'adversité, tout ce que l'écrivain Stefan Zweig nommait la certitude touchante de pouvoir barricader sa vie sans la moindre brèche pour la protéger de toute intrusion du destin. Mais ça ne marche pas comme ça, la vie. Et les faits divers nous le rappellent. De ce fait, nous pourrions les considérer comme des leçons de sagesse ou de prudence délivrées par le destin. Mais non. Le fait divers est souvent objet de condescendance ou de mépris, surtout lorsqu'il est rapporté par les médias. Certes, il ne change pas le cours de la grande histoire, mais à coup sûr, il change le cours de l'histoire personnelle de ses victimes. Si votre maison brûle, pour l'histoire, ce n'est rien. Pour vous, c'est un drame. Pour vos voisins, c'est un fait divers. Et ça les intéresse. Le fait divers, c'est l'actu à côté de chez soi, finalement.
C'est pas seulement à Paris que le crime fleurit. Nous, au village aussi, l'on a de beaux assassinats. Nous, au village aussi, l'on a de beaux assassinats. Nous, au village aussi, l'on a de beaux assassinats.
Nous aussi, on a nos assassinats. Pourquoi sommes-nous si souvent fascinés par les faits divers? Peut-être parce que ça nous soulage que la foudre soit tombée à côté de nous et non chez nous. Peut-être aussi parce que le fait divers nous offre deux nourritures dont notre cerveau est friand, du narratif et du négatif. Du narratif, car il nous raconte une histoire et nous adorons qu'on nous raconte des histoires, en plus des histoires qui font peur. Du négatif, car le fait divers nous apporte des informations inquiétantes et notre cerveau adore ça, les informations inquiétantes, les chiens écrasés, les violences conjugales, les enfants battus, bref, les drames du quotidien. Enfin, non. Il n'adore pas ça, mais il est affreusement attiré par les récits sur ça. Parce que depuis toujours, c'est en prêtant attention aux dangers, réels ou potentiels, que notre espèce a survécu. D'où cette priorité dans nos câblages cérébraux donnée à l'information négative. Elle nous attire davantage, elle nous remue davantage, elle s'incruste davantage à notre mémoire. Une autre source de notre attirance pour le fait divers, c'est que l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. L'injustice, plus de bruit que la justice. L'écrit, plus de bruit que les sourires. La violence, plus de bruit que la bienveillance. N'ayons pas de mépris pour les faits divers, pour ce qu'ils révèlent de notre société. Pas de mépris pour les personnes qui s'en inquiètent. Si les faits divers nous attirent et nous tourmentent parfois, c'est parce qu'ils blessent nos idéaux. Idéaux de paix, de bonne entente et de fraternité. Alors, essayons simplement de les faire vivre, ces idéaux, de parler et d'agir pour qu'ils frappent nos esprits plus fortement et joyeusement que les faits divers.
La chronique Chose vue de Christophe André, une réaction du romancier, tiens, Didier Decoin.
Moi, oui, c'est un romancier qui va vous parler chiffres, parce que je suis très frappé par une statistique que j'ai découverte il y a pas très longtemps, qui dit, je l'ai pas vérifié, hein, que plus d'un être humain sur trois a été ou sera un jour témoin ou acteur d'un fait divers. C'est terrifiant quand vous y pensez.
C'est terrifiant, mon cher Didier Lecoing.
Un sur trois.
Merci de nous avoir mis ce chiffre en tête.
Ça veut pas dire qu'on sera victime, ni qu'on sera assassin. Ça veut dire qu'on va être mêlé d'une manière ou d'une autre. On va être dans la mouvance, dans la galaxie du fait diversiaire. Et ça, je trouve ça tout à fait étonnant.
Marinero through the fog.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebéi.
On s'intéresse encore quelques minutes à notre fascination ou pas pour les faits divers. Écoutons un extrait de l'Instant M de Sonia de Villers avec le journaliste de Society, Pierre Boisson, qui s'exprime sur l'affaire Dupont de Ligonnès. Le magazine a connu un immense succès avec une enquête fouillée sur cette affaire.
Ce rejet du fait divers, il existe depuis que le fait divers existe. En fait, il a toujours été frappé d'illégitimité, sauf quand, Truman Capote ou Sartre disent qu'il faut s'en emparer, en fait. Et voilà, moi, je pense que, vous savez, il y a un historien qui s'appelle Dominique Khalifa qui est mort il n'y a pas longtemps. Il disait que
grand historien des bas-fonds et du fait divers.
Et il disait quelque chose que je pense important, c'est que le fait divers, c'est le grand fait démocratique. Parce que ça fait des hommes ordinaires des personnages principaux des histoires. Et en fait, dans ce fait divers-là, pourquoi des gens le lisent et pourquoi on en vend 400 000? Parce que ça raconte pas simplement l'histoire d'un criminel. Ça raconte tout un contexte social, le carcan moral de ce que peut être de grandir dans une famille versaillaise, les années 80, les lunettes de soleil, l'idée de se faire de l'argent rapidement, les petits mensonges de cours, couple, et justement,
le patriarcat, ça raconte 30 ans de société française.
Extrait de l'Instant M le 7 décembre dernier. Comment expliquez-vous cet intérêt du public pour l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, Fabrice Drouel?
J'ai envie de dire que tout a été dit par son bien entendre. L'analyse était parfaite. Et je retiens évidemment le fait que l'histoire est en cours et qu'il y a une certaine forme d'excitation de savoir si on va la retrouver un jour. Voilà. Ça fait comme des ingrédients qui sont assez fort pour que cette histoire passionne.
Patricia Touranchot.
Oui, c'est l'affaire du pont de Ligonnès, le fait qu'il ait tué toute sa famille, qu'il ait tout caché, qu'il ait manigancé son histoire, qu'on se soit pas aperçu de que ce type déraillait totalement, fascine. Mais comme quand le docteur Godard avait tué sa femme et était parti mystérieusement, ça faisait beaucoup de bruit aussi. Mais le travail de Society là est génial. Enfin, franchement, chapeau, ils ont fait un truc formidable.
Immense travail. Comment expliquez-vous que l'affaire Jonathan Daval récemment ait connu un tel retentissement médiatique sur les chaînes d'information, notamment Patrick Avran? Ce qui fascine, c'est je ne sais pas, la duplicité de Jonathan Daval. Qu'est-ce qui nous intéresse dans cette affaire? Je cite juste la réalisatrice José Dayan qui nous dit la chose suivante à propos de cette affaire. Cette affaire est tellement sordide. L'affaire Daval, c'est une histoire de cul avec un homme impuissant qui massacre sa femme avant de se réfugier en pleurant chez ses beaux-parents pendant 3 mois. On ne peut avoir aucune empathie pour cet homme. En tant que metteur en scène, je n'ai pas envie de filmer cette histoire-là. Alors là, c'est le point de vue de José Dayan, mais pourquoi est-ce que le public s'est intéressé à ce point, à cette affaire?
Je pense qu'il nous fascine, et c'est peut-être un point commun entre ce que l'on disait de Jean-Claude Roman, de Dupont de Ligonnès ou de Daval, c'est qu'on a affaire à des personnes que, en apparence, nous pourrions rencontrer sans imaginer quoi que ce soit d'autre que ce qu'ils nous racontent de leur vie. Et il y a ce moment de bascule, ou pas de bascule, parce que Jean-Claude Roman, c'est quelqu'un qui s'est fabriqué un personnage, dans lequel il était, on pourrait dire, c'est comme un acteur qui n'arrive pas à sortir de son rôle quand il sort de scène. Hein, c'est ça, hein, c'est pas un moment de bascule, c'est une installation qui s'est faite tout au cours de sa vie. Alors je ne sais pas ce qu'il en est pour les deux autres, mais il y a cette fascination pour l'étranger que nous voyons dans un autre qui nous ressemble. Et d'une certaine façon, ça nous met à ce moment-là en question. Est-ce que moi, quand je me regarde dans la glace, je ne pourrais pas être celui-là?
Et Dominique va dans votre sens, qui nous écrit « Personnellement, les faits divers m'intéressent, pas pour le sensationnel, l'ignoble, l'inédit, mais bien, comme le disait l'un de vos intervenants, pour le côté psychologique. Pourquoi l'un de mes semblables a commis un tel crime? Quelle est son histoire? C'est passionnant. » Alors Fabrice Drouet, dans votre livre « Affaires sensibles », un fait divers a été un révélateur de la société. On se demande souvent si un fait divers révèle un état de la société. C'est l'affaire Ilan Halimi en 2006, ce crime antisémite fomenté par Youssouf Fofana, Ilan Halimi enlevé, torturé, assassiné, Ilan Halimi qui a vécu 24 jours d'enfer. Peut-on dire qu'il s'agit d'un fait divers qui raconte une part sombre de la psyché nationale, de la psyché de notre société, l'antisémitisme?
Bien sûr, la psyché de certains, c'est un fait divers qui montre et qui révèle ce qu'on pourrait appeler la barbarie contemporaine, c'est l'ultra-violence. Et on a toujours un goût amer quand on en parle, quand on pense à ceux qui ont osé dénier qu'il s'agissait d'un crime antisémite. La bande de Fofana dit on va s'en prendre à lui parce qu'il est juif, et les juifs ont de l'argent. Et puis s'il n'a pas d'argent, ben, ils vont être solidaires. L'antisémitisme commence comme ça. Hein. C'est évidemment antisémite. C'est une horreur. C'est effectivement la barbarie contemporaine, et je souhaite qu'on rediffuse cet épisode d'Affaires Sensibles sur Ilan Halimi plusieurs fois pour qu'on n'oublie pas, tout simplement. Vous savez que nous faisons des rediffusions, une par semaine. Voilà, il faut pas oublier.
Question de Marie-Laure Zonshein, de Femme Actuelle.
Oui, les faits divers ont aussi la particularité de faire bouger la société, de faire évoluer les textes, d'être à l'origine de réformes. Patricia Touranchot en donnait des exemples en début d'émission, qu'il s'agisse de l'inceste, des féminicides ou bien tout à fait autre chose, de la sécurité des manèges après divers accidents. Dans bien des domaines, la médiatisation de ces drames individuels permet à la société tout entière de s'en emparer pour le bien de tous.
Patricia Touranchot.
C'est vrai, mais parfois, les hommes politiques ont tendance à trop légiférer dans l'instant. Hein, je pense à l'affaire Laetitia du côté de Nantes, dont Nicolas Sarkozy s'était emparé à l'époque pour légiférer, mais faire une énième loi qui ne sert absolument à rien. Donc c'est bien et c'est pas bien. Par contre, par exemple, sur les crimes de Michel Fourniret, tout le fait qu'il n'ait pas été arrêté pendant pendant 15 ans a poussé en fait la police judiciaire et la gendarmerie à s'équiper de moyens pour détecter les tueurs en série plus facilement. Mmh.
Et on termine avec vous, Catherine. Bienvenue, Catherine.
Ah, c'est moi.
C'est vous. Vous êtes à l'antenne, Catherine.
Oui, bonjour. Non, moi, la question que je me posais, c'était que on a tendance à, dans la vie en général, et la pandémie le montre encore plus, à mettre la mort de côté, à avoir des cérémonies rapides, des choses qui durent pas longtemps. On oublie assez vite. Je veux dire les morts d'une manière générale, et le fait divers, c'est quelque chose qui fait sens, d'abord qui cherche des explications rationnelles, donc il y a un contexte, il y a un mobile, il y a tout ça, et puis qui fait durer au-delà de la mort des gens leur histoire. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose d'un peu fascinant, c'est de remettre un peu la réalité de la mort au centre, alors que des millions de gens meurent en permanence, et évidemment qu'on peut pas penser à ça tout le temps, mais là, de temps en temps, il y a quelque chose qui émerge et qui fait qu'on se rassemble autour de la mort de quelqu'un, et je pense plutôt, c'est évidemment dramatique, mais ça a quelque chose de cathartique, un petit peu.
C'est très intéressant ce que vous nous dites, Catherine. Réponse en quelques mots du romancier Didier Decoing.
Ah ben j'adhère complètement à ce que vient de dire Catherine, et ça rejoint ce que disait Fabrice Drouel à propos d'Ilan Halimi. Il faut continuer à parler de certaines affaires pour empêcher la mort de fermer le tombeau trop vite.
Merci à tous, merci Patricia Touranchou, Patrick Avran, Didier Decoing et Fabrice Drouel. On peut retrouver toute la bibliographie sur l'appli et sur le site de France Inter. Demain, quelques bons livres de psychologie et de développement personnel à glisser dans votre sac cet été. Dans un instant, vous allez retrouver la série d'Antoine Compagnon, Un été avec Colette.
Je suppose que vous rentrerez toutes à l'école normale l'année prochaine.
Non, moi je rentrerai chez moi.
Comment vous appelez-vous ?
Claudine.
Un été avec Colette.
Et j'avoue que mon instruction n'a pas dépassé l'école primaire. Vous n'allez pas me mépriser, j'espère bien que non.
Par Antoine Compagnon. Paris.
Provinciale dans l'âme, Colette n'en devint pas moins très vite une légende parisienne après son arrivée dans la capitale. De Paris, elle connut tous les quartiers, à la faveur des innombrables déménagements qu'elle entreprit de recenser dans 3, 6, 9, rédigés pendant la guerre et publiés dans Le Petit Parisien en 1942.
Je me rappelle encore le temps où je couvais comme une maladie dans un logis nouveau mon refus d'emménager et de déménager.
Colette.
J'étais là, inerte. Entre des rideaux pliés et sommeillants, des caisses fermées, un sommier divan et une perpétuelle envie de pleurer aussi difficile à maîtriser qu'une incontinence.
Mariés avec Willy, ils s'installèrent d'abord sur la rive gauche, rue Jacob, dans un triste appartement où elle sombra dans la dépression, puis écrivit Claudine à l'école sur un coin de table.
C'est comme cette idée de loger rue Jacob. Enfin, allez, tenez, au 145 bis boulevard de Courcelles, à deux pas de chez moi, il y a un appartement délicieux. Nous serions toujours les uns chez les autres, cela distrairait Claudine. Ma petite fille, vous ne préféreriez pas un joli logis clair à cette rive gauche sale et mal fréquentée?
Ma tante, je crois que je préfère la rue Jacob. Les chambres claires me donnent des idées noires.
Des idées de petite paysanne, surtout.
Puis ils traversèrent la Seine en 1896 et Colette ne quitta plus jamais la rive droite. Ils emménagèrent rue de Courcelles, derrière la plaine Monceau, dans un atelier d'artiste mal chauffé, puis en haut d'un hôtel particulier où Colette eut sa salle de gymnastique et se consola dans la musculation. Elle s'installa en 1911 rue Cortambert, près du Trocadéro, dans le chalet suisse d'Henri de Jouvenel. Fragile construction de bois, comme il y en avait à Passy au XIXe siècle. Jouvenel y ajouta une salle de bain pour sa femme, habituée de la baignoire. Une partie du chalet suisse s'effondra sous un orage pendant la guerre. Colette trouva refuge dans un petit hôtel particulier du boulevard Suchet, où elle vécut 10 ans, promenant son chien sur les fortifications. Elle emménagea en 1926 dans un entresol du Palais Royal, au 9 de la rue de Beaujolais, appartement charmant, mais bas de plafond, donnant sur la galerie et sombre.
« J'y ai vécu 4 ans d'obscurité et de lampes jour et nuit »,
dira-t-elle en le quittant. Colette adora son antre du Palais Royal.
« Qui, hors moi, plaidera pour ces tanières blotties sous les arcades, écrasées entre l'étage noble et la boutique ?»
Mais son médecin lui ordonna de la quitter à cause de ses bronchites. Elle choisit de loger dans les cieux, au 6e étage de l'hôtel Claridge, sur les Champs-Élysées.
Que ne peux-tu voir ce que j'ai fait, mes meubles aidants de ce pigeonnier? 2 pièces, 2 balcons, le soleil, 1 vent de pont de bateau.
Écrit-elle à une amie. Elle s'y épanouit.
Un écrivain travaille bien à l'hôtel,
disait-elle. Mais le Claridge ayant fait faillite, elle dut traverser les Champs-Élysées pour rejoindre le 8e étage d'un nouvel immeuble, le Marignan, plein de courants d'air. Or, un miracle se produisit. Dans une interview sur les déménagements de Colette dans Paris Midi, elle confia qu'elle était à la recherche d'un nouvel appartement et rêvait du premier étage du Palais Royal, au-dessus de son ancien entresol.
L'article est tombé sous les yeux de celui qui habitait mon appartement. Il m'a écrit aussitôt. Madame, nous déménageons, cet appartement est à vous.
Ainsi fut fait. Elle y emménagea au début de 1938 et après une bonne douzaine de déménagements, ce fut son dernier domicile, sorte de retour aux sources.
Oui, j'ai trouvé dans Paris encore une province. Car Paris, après tout, ce ne sont que des petites provinces juxtaposées.
Madame Colette, pourquoi habitez-vous le Palais Royal?
Mais quand je suis venue au Palais Royal, je ne savais pas que je l'aimerais si fort. J'ai pris possession du plus beau paysage parisien qu'on puisse rêver, du grand morceau d'air libre par où me viennent les orages et le beau temps, les hirondelles et les passereaux.
Merci Antoine Compagnon.